On a eu l'impression avec l'éclosion au bar Kirois qu'il y a quelques semaines que s'il était pour y avoir une deuxième vague, c'était après partir de vraiment de la ville de Québec, de mon quartier en plus, quand même quelques rues de chez nous. Non, mais fallait voir la face des collègues quand je rentre au bureau le vendredi, qu'il y avait eu l'éclosion au Kirois, que le monde me regardait avec les grands yeux, puis il se reculait de deux pas, tu sais. Mais tout ça pour dire que, bon, on est en jaune présentement, le nouveau code de couleur vert, jaune, orange et rouge de la santé publique, ce qui veut dire pré-alerte, mais... La question principale, c'est, puis c'est une question qu'on va se poser régulièrement, c'est est-ce qu'on est plus en train, à l'heure actuelle, de pencher vers l'orange ou est-ce qu'on est en train de revenir vers le vert? Mmh. Bon, on va tout de suite poser la question au Dr Jacques Girard, directeur par intérim de la santé publique de la Capitale-Nationale. Bonjour, Dr Girard.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on se dirige au bon endroit en ce moment dans la région ou est-ce qu'on est en train de pencher vers l'orange et vers des restrictions plus sévères?
Je vous dirais qu'il y a autant de chances... qu'on demeure en préalerte, donc en jaune, ou qu'on se dirige vraiment vers un palier d'alerte modéré, donc c'est vraiment le code orange à ce moment-là qui s'appliquerait. Aucune chance qu'on retombe en vert pour les prochaines semaines.
Rappelez-nous ce que ça voudrait dire, le code orange, pour les commerçants, les citoyens.
Oui, écoutez, quand on est tombé en préalerte, finalement, donc ce qu'on disait, puis ce qu'on maintient, c'est de renforcer les mesures de base. Si on passe à un palier d'alerte modéré, ça veut dire que le directeur de santé publique, de concert avec finalement le ministère, a convenu qu'il est important d'ajouter des mesures. Donc, on va parler à ce moment-là de mesures additionnelles pour nous permettre justement de mieux contrôler la transmission du virus, parce que c'est une évidence, hein, vous savez, regardez autour de vous, nous on voit les agrégats là, où sont concentrés les cas, puis on voit bien qu'il y a une espèce de confluence, là, ça circule énormément. Donc le virus est vraiment parmi nous, pour employer une boutade, là. Il est vraiment, il a décidé vraiment de s'installer dans la ville de Québec.
Ouais.
On comprend qu'on est très attrayant dans la ville de Québec, mais le virus, il semble s'y être taillé une place importante. Alors, c'est pour ça qu'on est quand même un peu inquiet.
Dans le concret, moi, je parlais à des restaurateurs cette semaine qui me disaient que dans un échéancier d'à peu près une semaine et demie à deux semaines, ils sont prêts à refermer, ils s'attendent un peu à ça. On sait que les écoles aussi, c'est un endroit où le virus circule assez aisément. Mais dans le concret, là, de passer du jaune au orange, ça veut dire quoi pour les gens? Parce que on comprend renforcer les mesures, mais est-ce que vous avez des exemples?
Ben, je vous dirais le meilleur exemple qui nous vient à l'esprit. Tous les messages sont finalement cohérents, là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que donné finalement cette transmission-là qu'on observe actuellement autour de nous, là? C'est beaucoup les rassemblements. Que ce soit à l'intérieur des domiciles, que ce soit lors de, je dirais, de rassemblements avec des événements, ou encore fréquenter certains endroits où les gens se retrouvent. C'est toujours la notion là de contact que je dirais le plus intense. Donc, dans le fond, la première mesure qui nous vient à l'esprit, puis ça fait partie des scénarios qu'on regarde en fin de semaine, justement, parce que là, on se prépare comme si on devait changer de palier d'alerte, même si il est possible qu'on demeure en préalerte. Fait que la mesure la plus naturelle, c'est de dire, ben, les rassemblements, on pourrait à ce moment-là se retrouver avec une recommandation pour diminuer le nombre de personnes qui pourraient se retrouver à un endroit, par exemple.
OK. Fait que c'est vraiment de cibler là où il y a des foyers d'éclosion puis d'intervenir à ces endroits-là.
En ce qui a trait, vous savez, je ne sais pas si c'est M. Charron, c'est que quand on regarde les secteurs, c'est sûr que nous, on regarde ça toujours sur une échelle là, de gestion du risque. Des fois, c'est difficile pour un commerçant là d'appliquer toutes les mesures là à la lettre sans qu'il y ait de failles. Généralement, les gens y arrivent avec beaucoup de, je dirais, d'ingéniosité puis même de créativité. Et nous, on est vraiment là en mode accompagnement pour leur permettre justement de rester ouvert le plus possible. Parce qu'un des objectifs qu'on a, il y a trois objectifs. On veut évidemment protéger les personnes les plus vulnérables, d'accord? On veut aussi préserver la capacité de notre système de santé, particulièrement le système de soins, pour répondre à des personnes qui auraient besoin de soins particuliers suite à des complications. Et l'autre objectif, puis là je vous rejoins beaucoup, c'est préserver finalement la vie économique, la vie culturelle. On veut pas finalement fermer des secteurs, parce que c'est important pour les Québécoises et les Québécois. Donc, cet élément-là est clé pour nous. L'idée, c'est pas de fermer des secteurs, c'est d'adapter des mesures. Il pourrait y arriver qu'on soit contraint de vraiment d'envisager certaines mesures peut-être plus drastiques, mais on va le faire probablement de manière graduée.
OK. Sur quels facteurs vous vous basez à la santé publique pour déterminer les fameux codes de couleur? Parce que on comprend que le nombre de cas actifs dépend beaucoup de la stratégie de test. En ce moment, on teste plus que jamais, beaucoup plus que lors de la première vague au Québec. Donc, j'imagine qu'il y a aussi les hospitalisations, les gens aux soins intensifs, les décès, c'est ces critères-là?
Oui, c'est tout ça un peu, puis il y en a bien d'autres aussi. Mais le nombre de nouveaux cas, c'est sûr que c'est quelque chose d'important, mais on le regarde sur une période, hein, parce que chaque jour, là, ça fluctue. D'ailleurs, probablement qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est pas les mêmes chiffres qu'hier, parce que ça bouge beaucoup, pour toutes sortes de raisons, hein, parce que ça dépend évidemment des tests que, finalement qui nous arrivent. Oui, on teste plus, mais ce qui fait qu'on a plus de cas, c'est pas le fait qu'on teste plus, c'est parce qu'il y a une positivité dans les tests. La proportion de personnes qui se fait tester, là, vraiment, c'est plus important. Et je vous dirais une chose, on vient d'analyser justement des données. Les personnes symptomatiques, là, parce qu'on a la capacité de savoir dans quel groupe ils sont, on voit que la positivité est plus importante chez les gens qui ont des symptômes. Fait que vous voyez, tout ça, on prend ça en considération. Oui. On regarde les hospitalisations. C'est relativement stable pour le moment, comme les soins intensifs. Le problème, c'est que ça, c'est finalement, c'est un peu comme une étoile qui réfléchit sa lumière. C'est que dans le fond, c'est la situation il y a à peu près 10 jours, vous voyez? Mm-hmm. Donc, en fait, les hospitalisations, il y a toujours un effet retard parce que les gens ont des complications généralement 10 jours après avoir contracté la COVID. Là, oui. Quand ils ont en présenté, c'est 15 à 20 % à peu près là, des personnes qui contractent le virus de manière générale. Fait que, vous voyez, c'est pour ça qu'on regarde tout ça. Puis on regarde aussi un autre élément important, ce sont les éclosions. C'est-à-dire ces lieux-là où les cas sont reliés, si vous voulez, et où il y a une transmission sur place. Alors, c'est ça qu'on appelle une éclosion. Fait qu'on regarde aussi comment ça se passe, comment ça se répartit dans la ville de Québec particulièrement. Puis c'est surtout la ville de Québec hein, qui est vraiment, vraiment touchée actuellement.
Pourquoi ça prend une semaine et plus à voir les résultats des tests pour les gens qui se font dépister? Parce qu'on s'entend, Dr Girard, c'est extrêmement long, là.
Oui, mais de façon générale, nous, on regarde, on analyse ça. C'est sûr qu'il y a eu des délais. C'est certain que, de manière générale, là, je peux vous dire, je regarde, moi, nous, on reçoit les cas positifs, là, et puis généralement, là, c'est rare que ça dépasse 48 heures. Donc, ce qui arrive, c'est que...
Oui, le problème, c'est que les gens qui sont négatifs, je m'excuse de vous couper, mais les gens qui sont négatifs, eux, ils se sont mis en isolement, ils ne rentrent pas travailler, ils n'ont peut-être pas de revenus pendant une semaine. Certains m'ont rapporté avoir attendu près de 10 jours pour avoir un résultat négatif. C'est 10 jours au cours desquels ils ne travaillent pas. C'est quand même... Écoutez, ça met des gens dans des situations extrêmement précaires.
Vous avez raison. Je pense que peut-être dans tout ce filet-là, puis il faut quand même comprendre qu'avec finalement l'achalandage du dépistage qu'on a connu, c'est sûr que ça a créé comme un goulot d'étranglement. Fait que c'est sûr que dans la machine, puis là, on est en train de corriger ça, M. Charon. Okay. On a mis des mesures, justement, entre autres pour l'accès au dépistage, là, qui va être amélioré avec la clinique de débordement, notamment. Puis aussi, on envisage 2 autres points de service pour être sûr que, finalement, au moins, au niveau du temps d'attente, ça soit résolu, là, cette question-là, parce que ça, c'est inacceptable. Pour nous, c'est pas quelque chose là qui nous plaît beaucoup, là, cette situation-là. Puis l'autre enjeu, ben, c'est évidemment les laboratoires, parce que vous comprendrez qu'avec, finalement, le nombre de personnes que nous avons dans nos centres de prélèvement, ben, il faut que ça suive aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la gestion, on est obligé de faire appel, finalement, à une autre région qui nous a aidé beaucoup, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment, et on a un laboratoire privé, peut-être il y en aura un deuxième aussi qui va nous prêter main forte. Et puis, généralement, nous, en santé publique, on a triplé les équipes pour les enquêtes, donc la gestion des cas et des contacts.
Ah ben, tant mieux.
Ce que je peux vous dire, c'est que, de manière générale, on arrive par rapport aux cas positifs, puis on a des codes de priorité. Fait qu'on voit, là, quand les gens se présentent au centre de prélèvement, on les met dans une catégorie. Fait que ça nous permet vraiment d'identifier, là, qu'est-ce qui est important, là, de manière générale, là, de regarder en priorité. C'est sûr qu'on en échappe, M. Charon, mais de manière générale, l'ensemble, là, on arrive relativement bien. C'est malheureux pour les personnes, effectivement, vous avez raison de dire, des gens qui doivent retourner au travail. Fait qu'on essaie justement et on devrait y arriver là dans les prochains jours, vraiment d'améliorer la réponse, finalement, pour les personnes qui font ce sacrifice-là de se présenter au centre de prélèvement. D'ailleurs, je voudrais quand même féliciter hein, les gens, remercier les gens pour vraiment le fait qu'ils répondent bien à nos appels.
Ben, ça me rassure de toute façon ce que vous me dites, docteur Gérard, parce que c'est sûr que les gens ont des préoccupations, mais la fatalité que moi je voyais, c'est que si, par exemple, je sais pas, je pense à des gens qui travaillent en milieu scolaire, dans les CPE, dans le milieu de la santé, si ça prend une semaine à chaque fois, à un moment donné, ils voudront plus aller se faire tester. Ça, c'est l'espèce de d'étape qu'on veut jamais atteindre, de faire en sorte que les gens veuillent plus y aller parce qu'ils se disent à chaque fois, ben, ça prend une semaine. Mais je suis heureux de savoir que vous semblez très proactif à la santé publique.
Puis je vous dirais, j'ajouterais quelque chose pour le bénéfice des auditeurs. Dans le fond, vous savez, on a une ligne COVID, hein? Donc, c'est le 418-644-4545. En fait, c'est que ce qu'on se rend compte, là, les personnes qui sont symptomatiques, généralement, on a une meilleure, une meilleure proportion, une plus grande proportion de positifs parmi les gens qui se présentent avec des symptômes. Oui. Alors, c'est les symptômes dont on parle beaucoup, là. C'est très facile de les repérer. C'est pas le nez qui coule, là. C'est pas là que ça se passe.
Mais c'est pour ça, docteur Gérard, qu'on va entendre, par exemple, que dans certains milieux, dans les écoles, on va dire, OK, si telle personne a été en contact avec une personne qui pourrait être positive, mais qu'elle a pas de symptômes, ben, on s'inquiétera pas trop, puis on la priorisera pas nécessairement.
Oui. Mais ce qui arrive, c'est, regardez, c'est que il y a trois cas de figure. Ou vous avez des symptômes, là, c'est important que vous présentiez au centre de prélèvement. Oui. On est d'accord. Si votre médecin vous dit c'est important d'aller vous faire dépister, ben, il faut l'écouter. Et puis, si la santé publique vous contacte parce que vous êtes effectivement un contact d'un cas, puis nous, on évalue justement la sévérité ou le risque d'avoir été en contact avec cette personne, COVID positif, ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut se présenter. Vous voyez? Ça, je dirais, c'est les trois cas de figure.
Okay.
Si vous avez des doutes, vous êtes inquiet, la ligne COVID est là pour ça, justement, pour évaluer si vraiment c'est important que vous présentiez un centre de prélèvement à ce moment-là. Puis il faut quand même comprendre, j'aurais un autre message, si vous me permettez.
Oui, absolument.
C'est que, dans le fond, nous, on s'est rendu compte que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils vont passer un test, puis là, ils disent, s'il est négatif, c'est parfait, je vais pouvoir aller à ma fête ou à mon... C'est pas une bonne raison de passer un test de dépistage. Parce que le test, là, il peut se modifier. Vous pouvez effectivement être porteur de la COVID-19 dans les premiers 48 heures. Le test, il pourrait ne pas être positif. Fait que c'est pas une garantie à 100%. Vous avez un test négatif, c'est pas une garantie. Le message, c'est de dire, faut toujours faire comme si on pouvait finalement, là, être au contact d'une personne positive. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, distanciation 2 mètres, on se lave les mains, et puis on fait attention. On regarde là s'il y a moindrement un attroupement ou quoi que ce soit.
Oui.
On reste à l'écart. C'est super important.
OK, on va quand même terminer là-dessus, docteur Gérard, parce que c'est extrêmement important, même que ce message-là mérite d'être martelé au niveau de la stratégie de dépistage. Là. Les trois cas de figure, parce que moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se faire tester aussi parce qu'ils se disent, là, ça fait plusieurs mois que la pandémie a lieu, j'ai pas vraiment de symptômes, mais j'ai été en contact avec tellement de gens, je voudrais en avoir le cœur net. Mais en gros, ces gens-là, il faut qu'ils appellent à la ligne COVID avant. C'est ça que je comprends. Il faut que ces gens-là soient priorisés puis qu'on leur dise, OK, ben d'abord, avez-vous des symptômes? Avez-vous tel comportement pris part à tel type de rassemblement? Puis après, à la ligne, on va leur dire, allez-y ou allez-y pas. Ça peut
Exactement.
Permettre aussi de désengorger, de réduire les temps d'attente. Ça, c'est très, très important de le rappeler.
C'est très important. Puis écoutez, vous savez, on est tous pareils. Hein? Tu sais, à un moment donné, quand on a un brûlement d'estomac, on prend une petite pilule, puis là, ça nous permet de dire, ben là, je vais pouvoir manger ce que je veux. C'est pas une bonne idée pour appliquer ça au test de dépistage. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est vraiment important. Essayons donc de se donner, finalement, une certaine discipline. Écoutez, on est en préalerte, c'est important. Le virus circule à Québec, il est partout. Il faut faire attention. Il faut vraiment modifier nos comportements. Et c'est important que la population coopère avec nous. Nous, on fait notre boulot, hein, on le fait de notre côté, mais on dit à la population, écoutez, aidez-nous, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à réduire la transmission du virus qui, vraiment pour nous, là, il circule beaucoup trop autour de nous, dans nos communautés. Puis il est en train de s'infiltrer partout, dans les écoles, dans les milieux de travail. C'est ça qui arrive, là, la liste s'allonge. Là. Puis nous, on se dit, puis dès qu'il y a une éclosion, bien, c'est sûr qu'on intervient, puis ça marche bien. On arrive de manière efficace. Mais de grâce, il faut vraiment, vraiment se discipliner.
D'ailleurs, vous dites, il est partout, puis dans les écoles, c'est un endroit où il y a beaucoup de surface, puis les gens peuvent être en contact. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la survie du virus, ces surfaces? On avait tenté d'avoir l'information au printemps, quand évidemment les connaissances étaient embryonnaires à certains égards, mais Est-ce qu'on le sait encore, le virus, il survit combien de temps sur les surfaces sèches, les surfaces mouillées? Est-ce que ça dépend encore du matériau? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet-là, Dr Gérard?
De manière générale, je vous dirais que le virus a la propension de demeurer vivant pendant quelques jours sur certaines surfaces qui l'affectionnent davantage. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, toutes les mesures d'hygiène, quand on demande au personnel, justement, puis je vous dirais que les préposés là à l'entretien ménager, tout ça, n'ont jamais été aussi importants que maintenant. Il faut quand même remettre ça en perspective. Ce n'est pas le mode de transmission le plus, je dirais, le plus fréquent ou le plus important. Tu sais, si on avait à graduer ça, là, est-ce que c'est de l'ordre de 10 à 20 versus 80, 90 pour la transmission avec les gouttelettes,
ouais,
et éventuellement, okay, peut-être aussi même, tu sais, les aérosols, les gens qui ont des CPAP, par exemple. Donc, ouais, c'est ça qu'on regarde tout ça actuellement. L'état des connaissances évolue encore là-dessus. Oui, il y a une transmission par les surfaces, mais elle reste relativement marginale parce qu'on n'a pas vraiment pu documenter de manière très claire, si vous voulez, que ce mode de transmission-là vraiment était significatif. Donc, on attend de voir les résultats. Il y a beaucoup d'études en marche. On en a même ici au Québec et même à Québec. On a une étude là dont on est en train d'analyser les résultats parce qu'on avait fait des échantillons là dans certaines ressources d'hébergement pour personnes âgées. Donc, on regarde un peu ce qui sort, ce qui va sortir là dans les prochaines semaines là-dessus. Donc, on est activement à la recherche de réponses à votre question, okay, M. Charon.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous, Dr Gérard, ce matin. Je sens que l'inquiétude dans la population qui s'était un peu estompée quand même cet été est en train de reprendre la vigueur là, avec la menace qui plane d'un reconfinement bien que partiel, là, bien que ciblé à certains endroits, certaines industries. Mais je sens que les gens recommencent à être un peu inquiets. Donc, pour moi, c'est très important qu'on puisse se parler, Dr Gérard. Je vous remercie.
C'est ça. Puis je veux peut-être vous terminer en disant, écoutez, on a la situation sous contrôle au niveau du système de soins, au niveau des enquêtes épidémiologiques que nous faisons avec les équipes de santé publique, au niveau justement du dépistage. La situation là puis est vraiment, vraiment sous contrôle au moment où on se parle. Donc, il faut quand même comprendre que la grosse, je dirais souvent, c'est le gros bout du bâton, là, vraiment, ça va être notre capacité à modifier nos approches, puis à redescendre un petit peu, à se rebrancher sur le réel, là. C'est vraiment important pour les prochaines semaines.
Merci, Dr Gérard.
Un plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Le Dr Jacques Gérard est directeur intérimaire de la santé publique, la capitale nationale. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous avez écrit dans les dernières minutes pendant l'entrevue. Mais je dois dire, moi, à la lumière de la discussion qu'on vient d'avoir avec le Dr Gérard, il y a encore des interrogations qui persistent, mais il y a des réponses à nos questions que la science ne nous permet pas d'avoir pour le moment.
C'est ça.
Tu sais, c'est bon, c'est plate, mais c'est comme
plate,
ça.
C'est plate, mais c'est ça.
C'est plate, mais c'est comme ça. Mais tu vois, au niveau, le plus gros problème, à mon avis, en ce moment, c'est vraiment les délais pour avoir l'obtention des résultats des tests. Mais, tu sais, on est passé de 14 000 tests par jour, qui était l'objectif ultime qu'on avait de la misère à atteindre là, pendant
début,
un bout de temps,
oui.
14 000 tests. Puis là, on était à quoi, 25 000 par jour,
ouais,
au-dessus de ça. Ça fait que ça se peut là que ça soit compliqué. Puis évidemment, c'est des grosses bureaucraties. Ça vire pas comme Saint-Dicenne. Je sais pas si vous avez déjà vu les bateaux de croisière là, qui arrivent à Québec,
ah ouais,
Queen Mary 2, là.
Quand
ils virent pour repartir, là, ça prend quand même quelques minutes.
Oui. C'est pas évident.
Fait que moi, je suis un éternel optimiste, des fois un peu idéaliste. Fait que je sens que la santé publique est proactive là-dedans. T'sais, je sens qu'ils essayent vraiment de trouver un moyen. Il n'y a pas personne à la santé publique qui se lève le matin et qui est heureux que ça prenne 8 jours à envoyer des résultats négatifs à des gens.
Je penserais pas.
Personne. Sauf que, en contrepartie, pendant ce temps-là, ben, t'as l'éducatrice en CPE qui a épuisé dans la dernière semaine tous ses congés de maladie de l'année. Fait que là, elle est en contact avec des enfants. Elle va-tu redevoir passer un test à un moment donné? Fort probablement. Mais cette fois-là, elle n'aura pas d'autres issues que d'être seule chez eux, de ne pas avoir de salaire et d'attendre. Ça marche pas, là. Ça se peut pas.
Ça qui est plate. Puis c'est ça que tu dis. Caroline, à un moment donné, ça marche pas. Puis ils sont-tu préparés? Puis qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que moi, à l'inverse de toi, je suis plutôt du genre cynique, là. Mais dans mon cynisme, je me dis, écoute, c'est une grosse machine qui tourne pas. Puis tu n'es même pas capable de la faire pencher de 2 % d'inclinaison, tu sais, habituellement 2 degrés d'inclinaison. Ben, mais là, pas... ils essayent de faire des changements.
C'est ça.
C'est que tu te dis, garde, c'est quelque chose qui est immobile, qui bouge pas, le ministère de la Santé, tout le réseau de la Santé, tu as l'impression que tu n'es pas capable de faire avancer quoi que ce soit. Là, s'ils réussissent à changer un truc, mais écoute bien, c'est déjà un accomplissement en soi.
Ben, tu sais, c'est que de passer de 14 000 à 26 000 tests par jour, c'est du gros mouvement.
Ben oui.
Mais ça, c'est venu avec des problèmes de à l'autre bout du tuyau, là, tu sais. Une médecin me confiait cette semaine que les résultats, ils les ont. Elle me disait, on les a, les résultats. Moi, j'ai accès à la base de données, je suis médecin. Ça fait que si tu te fais tester, appelle-moi, je vais te le dire si tu l'as ou tu l'as pas. Le problème était dans la communication de ces informations-là aux citoyens. Puis là, ben eux, de ce que je comprends aussi, puis c'est ce que le docteur Gérard nous expliquait, finalement, ils ont trop de résultats à communiquer. Ça fait qu'ils priorisent. OK, on va envoyer les positifs en premier. Ensuite, les gens peut-être qui travaillent dans tel domaine, on va les envoyer en premier. Puis ensuite, en deuxième, on va appeler tel type de... Mais en même temps, on parle toujours bien d'un coup de téléphone, d'un courriel, d'un...
C'est pas normal, puis on l'a répété
texto,
combien de fois.
Un système de texto.
Mais ça nous a remis d'en face.
D'automatisé. Tu sais, on est quand même dans une ville... Puis, pas chialer pour chialer. On va juste pitcher plein de... On va pitcher plein de suggestions dans les airs. On est dans une ville qui est un hub au niveau des nouvelles technologies.
Ouais, mais c'est...
T'sais, des programmeurs, là, puis des cerveaux, là, en termes de software, de logiciels, d'applications, là, il y en a à Québec. Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler avec des gens pour leur dire, regardez, vous allez trouver un moyen, là, ça peut être long, mais ça peut nous servir aussi pour la suite des choses. Mm-hmm. Vous allez trouver un moyen là pour que quand on a de l'information de masse à diffuser comme ça, des tests, par exemple, là, ben ça envoie un texto aux gens.
Oui, mais ça, t'as raison. Mais c'est parce que ça nous a remis en pleine face le fait qu'on vit encore en 1912 avec la technologie au Québec. Tu sais, c'est combien de fois on l'a répété, mais la maudite liste des écoles qui ont été touchées, qu'on a affichées, puis finalement, on a dû retirer, puis le père qui faisait dans le fond de son sous-sol, sa liste était plus efficace que celle du gouvernement du Québec.
Ouais.
Les hôpitaux, le nombre de décès, c'est envoyé par fax, ça restait pris à tout bout de champ, on n'était pas capable d'avoir ça à jour. Transmettre les résultats, on fait encore des appels, puis de temps en temps, on a l'impression que c'est livré par un pélican qui va aller te porter ton résultat, alors
c'est
que un texto ou un courriel, ce serait si efficace. T'sais, c'est tout ça qui nous revient en pleine face, alors que ça aurait dû être réglé, c'est juste ça.
Ouais. T'as raison. Je peux pas, défendre le système de santé.
On envoie tu les résultats par fax? Non.
D'après moi, si t'en as un, tu peux faire une demande.
Téléphone. Non, mais on m'a dit que ça commençait à envoyer des textos. Mais tu sais, ça commence à envoyer des textos. Je présume que c'est une personne qui rédige un texto puis qui l'envoie, puis c'est correct. Mais là, c'est une question de quelques jours, engager des gens, les former à la va-vite. Mais tu sais, on parle pas de faire une opération à cœur ouvert, là. On parle d'envoyer une information à quelqu'un. Là.
Ben oui.
Voici l'information, voici la personne à qui tu communiques, tu y communiques, go. Ça fait que c'est ça qu'il faut faire au plus sacrant. Parce que de toute façon, ça va coûter pas mal moins cher à la société que de mettre des gens en arrêt de travail pendant une semaine qui peuvent vivre toutes sortes de situations. Là, ou bien il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement les dédommage, ou bien ils font juste pas d'argent, donc ils consommeront pas, paieront pas de taxes, des salaires qu'ils feront pas. C'est-tu des gens qui peuvent développer, péter une dépression, qui peuvent, tu sais, bon. Tout ça coûte de l'argent aussi, là. Bref, 8h pile, au retour, du fun, c'était assez sérieux, dernière minute. Au retour, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va trouver moyen.
On trouve de quoi?